Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le vendredi 22 et toute la journée nous célébrons le centenaire de la naissance de Georges Brassens malgré les petits incidents techniques.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid.
Est-ce que vous connaissez Jeanne et Marcel Planche?
Pas du tout.
L'Auvergnat, c'est Marcel Planche et c'est chez eux qu'il se cache lorsqu'il décide de ne pas retourner en Allemagne et de déserter le service du travail obligatoire. La partition de Georges Brassens à 6h20.
Georges Brassens que l'on va célébrer toute la journée sur Europe 1 avec une programmation spéciale.
Dans l'actualité, Julien, également Facebook en pleine crise.
On peut avoir 3 milliards d'utilisateurs dans le monde et être détesté de tous. C'est la prouesse de ce réseau social qui multiplie les scandales et les ratés. Facebook est accusé d'exploiter nos données personnelles de manière abusive, de fragiliser la démocratie en laissant courir les fake news et de nuire à la santé mentale de ses utilisateurs, notamment les jeunes accros d'Instagram. Vous rajoutez à cela une panne mondiale au début du mois et la fuite de documents internes compromettants et vous avez une crise sans précédent. Résultat, le géant américain aurait décidé de changer de nom et de cœur de métier. Vous avez peut-être entendu parler de métaverse ces derniers jours. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que cela suffira à redorer le blason de Facebook? On va poser toutes ces questions à 6h10 à Jérôme Colombin, grand spécialiste du numérique. Et puis Omblin, ce matin, vous nous parlez d'un livre à la fois drôle et pédagogique.
Oui, un livre qui dispense des cours d'histoire, de mécanique, de sport, d'anatomie et plus encore. Sauriez-vous, Julien, raconter de manière la plus simple possible la bataille de Marignan en 1515? Bon, voilà, nous expliquer les UV. Le jaune culasse?
Non plus.
C'est quoi exactement le jaune culasse? C'est la mission que s'est donnée l'humoriste et comédienne Marine Baousson. Son livre Vulgaire aborde des sujets dont on a tous entendu parler, qu'on connaît plus ou moins, mais parfois ça s'arrête là. Et Vulgaire vulgarise, je cite, des trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien. Elle en sait bien plus maintenant, Marine Baousson, et qui sera avec nous à 5h40.
Voilà pour une partie du programme. Bon vendredi à tous. On commence avec la météo. Bonjour ma chère Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bonne nouvelle ce matin, le temps se calme.
Oui, ce matin, on ne va pas parler de tempête, ni de vent fort, ni de pluie. Le temps, effectivement, redevient sec sur l'ensemble du pays. Ça fait du bien. Mais en redevenant sec, nous avons une baisse assez flagrante des températures. Vous allez le sentir ce matin en sortant. Alors sur la moitié nord, le ciel est dégagé, mais attention, hein, sur l'Île-de-France, la Normandie, la Bourgogne, l'Alsace, le Centre-Val de Loire et la Gironde, dans toutes ces régions, si vous prenez la route, soyez prudents, on a beaucoup de brouillard et de nuages bas. Sur la moitié sud, des Alpes aux Pyrénées, on a un ciel qui est un petit peu plus couvert et puis de belles éclaircies sur le sud-est. Dans l'après-midi, on a de belles éclaircies sur l'ensemble du pays. C'est une journée agréable, une belle journée automnale, un petit peu plus nuageuse sur la moitié nord. Mistral et Tramontane se renforcent dans le sud. Alors attention, couvrez-vous, couvrez vos enfants pour le dernier jour d'école. Moins 1 au Mans, 0 à Alençon, 4 à Paris ce matin, 10 du côté de Toulouse et 15 à Perpignan. Cet après-midi, 10 à 23, ça baisse aussi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous, place à l'info de ce vendredi. Il est 5h sur Europe 1. Elle est baptisée indemnité inflation, 100 euros pour 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. C'est la mesure annoncée hier par Jean Castex pour contrer la flambée des prix à la pompe. Pour la toucher, aucune démarche à effectuer. Les personnes concernées recevront un virement. Eux, en revanche, font le plein. Les Républicains ont enregistré l'arrivée de 16 000 nouveaux adhérents en seulement 3 semaines. Conséquence du congrès qui doit déterminer le représentant de la droite à la présidentielle. Il faut en effet être encarté pour pouvoir voter. Et puis, inquiétude au Royaume-Uni. La reine Elisabeth II, de retour à Windsor, a été hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi. De simples examens assurent le palais. Nous serons à Londres dans ce journal.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Des semaines que les Français attendaient un geste du gouvernement face à la flambée des prix du carburant. Alors qu'un litre de diesel coûte en moyenne 1,55€, 1,62€ pour du sans-plomb 95, l'exécutif répond et annonce une indemnité inflation. Jean Castex, c'était hier soir sur TF1, on l'écoute.
Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros qui sera versé aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois, à chaque Français. Qui, je peux être un peu plus précis, les gens qui travaillent, les salariés, les indépendants, les artisans, les agriculteurs, effectivement les chômeurs en recherche active d'emploi, les retraités aussi avec cette condition de ressources, ils n'auront rien à faire. Ce sera automatique.
Moins de 2000 euros net, c'est ce que gagnent 38 millions de Français. Maud Descamps, vous êtes journaliste au service économie d'Europe 1. Comment cela va se passer pour toucher cette indemnité inflation? Est-ce qu'il faut en faire la demande?
Non, tout sera automatique. Cette somme sera versée directement sur votre compte en banque. Pour les salariés, par exemple, ce sera via votre employeur. Pour les indépendants, ce sera via les URSSAF. Sachez que ce n'est pas le revenu fiscal du foyer qui est pris en compte, mais le revenu net de chacun. On va prendre un exemple très concret. Si vous gagnez moins de 2000 euros net par mois et que c'est également le cas de votre conjoint, alors chacun percevra 100 euros. Les premiers versements auront lieu à partir du mois de décembre et s'étaleront jusqu'en février. Et ce sont les salariés qui seront les premiers servis.
Et une autre solution trouvée en complément de cette prime, les stations communales, un petit peu plus chères mais aussi plus proches et à tarif fixe, reprennent du service. Exemple à Condé en Brie, dans l'Aisne, où Marion Gauthier s'est rendue.
Trois pompes à essence au milieu d'un parking et un ronronnement devenu presque un fond sonore.
C'est super pratique. Si je vais à une autre station essence, il faut que je fasse facilement 10 km de plus.
1,60€ le litre de gasoil ici contre 1,55€ dans une grande surface où beaucoup, comme Old, où Jean se ravitaillait d'ordinaire, mais l'écart s'est réduit peu à peu.
Vu la différence de prix, c'est plus avantageux de venir ici.
Dans les petites stations comme celle-ci, ce qui est bien, c'est que le prix ne bouge pas. Dans un supermarché, demain, il peut augmenter de 5 centimes. On ne sait jamais où donner de la tête.
Je suis surpris.
L'adjoint de cette commune de 700 habitants voit défiler voitures et visages inconnus. En quelques semaines, la fréquentation a augmenté de près de 20%.
On est victime du succès parce que c'est nous qui décidons le prix de vente. Donc quand on voit comme là où il y a vraiment une hausse des prix, en fait, on essaye de descendre un peu le prix pour que ça coûte moins cher aux utilisateurs. En fait. On perd un peu d'argent, mais comme c'est un service de proximité qu'on essaye de rendre aux habitants.
Et les cuves sont bientôt à sec. Une première assure le maire qui a modifié son budget pour recommander du carburant.
Marion Gauthier. Et de son côté, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, porte cette indemnité inflation à 200 euros pour tous les employés de son groupe concerné, soit 85 000 personnes, annonce hier soir sur Twitter.
À quelques semaines du Congrès des Républicains qui désignera le représentant de la droite à la présidentielle, les LR viennent d'enregistrer l'arrivée de 16 000 nouveaux adhérents.
Ils étaient 80 000 il y a trois semaines. On en compte aujourd'hui 96 000, bien déterminés à soutenir leur candidat au Congrès. Alexandre Chauveau, vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Est-ce qu'on peut parler d'un engouement des militants de la droite ?
En partie, oui. En tout cas, les cadres des Républicains se satisfont en public comme en privé des nouvelles adhésions. La barre des 100 000 membres devrait être franchie la semaine prochaine et le parti espère compter sur 110 voire 120 000 votants pour le congrès du 4 décembre. Agnès Evren est la présidente de la Fédération de Paris. Elle décrit le profil des nouveaux adhérents.
Il y a des électeurs qui étaient partis plutôt parfois chez En Marche et qui ont compris en fait qu'on avait enfin quitté, j'allais dire, le costume de la droite la plus bête du monde et qui ont senti que le rassemblement était réel et qui du coup se disent « je veux participer à la désignation du candidat ».
De leur côté, tous les candidats tentent de faire adhérer le plus d'électeurs possible aux Républicains. Valérie Pécresse a mobilisé les 10 000 membres de son micro-parti Libre, tandis que Xavier Bertrand compte lui sur ses relais dans les territoires. Tous les deux veulent faire basculer le rapport de force qui semble pour l'instant pencher pour Michel Barnier. En clair, l'engouement de ces derniers jours est surtout lié à la mobilisation accrue des candidats, une dynamique que les débats télévisés à venir devraient sans doute accélérer.
Merci Alexandre Chauveau.
Et Michel Barnier qui fait de sa fidélité aux Républicains l'un des axes de sa campagne, par opposition aux ex-dissidents Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Problème, l'ancien négociateur en chef du Brexit n'a pas payé son adhésion en 2019. Situation désormais réglée, il est aujourd'hui à jour de cotisation, précise son entourage, comme ses cinq concurrents.
Les avocats de l'attaquant vont le défendre bec et ongle aujourd'hui. 10 mois de prison avec sursis, réquisition sévère à l'encontre de Karim Benzema hier au procès de la sextape de Mathieu Valbuena. Il prend fin aujourd'hui au tribunal correctionnel de Versailles et si les juges confirment cette sanction, on peut le dire, Jean-François Pérez, l'image de Karim Benzema de retour depuis peu en équipe de France serait largement écornée.
En effet, à défaut d'être présent physiquement aux audiences, on n'a parlé que de lui. Avec cette question lancinante, au milieu de ses prévenus ordinaires, Karim Benzema est-il un justiciable comme les autres, avec son statut, sa popularité? La peine requise à son encontre est-elle juste? Oui, répond l'avocat de Mathieu Valbuena, Paul-Albert Ivens.
Il y a une certaine exemplarité qui est demandée à ceux qui représentent la France. Ça me paraît parfaitement justifié. On entend des réquisitoires dans les affaires politiques beaucoup plus sévères, toujours sur la base de cette exemplarité.
Dans le camp Benzema, on craignait une réquisition sévère, mais peut-être pas à ce point. 10 mois, avec sursis certes, mais 10 mois de prison quand même. Les deux avocats du joueur ont du mal à l'accepter. Ils plaideront ce matin en espérant la relaxe de leur prestigieux client, Maître Sylvain Cormier.
On est dans quelque chose d'assez effarant et on requiert une peine absurde, disproportionnée. Ce sera une belle poignade à l'audience et nous sommes remontés comme des pendules, je dois le dire, avec mon confrère Antoine Vey, contre ce réquisitoire.
L'audience reprend ce matin à 9h30 à Versailles. Le jugement est attendu dans la journée.
Jean-François Pérès, chef du service des sports d'Europe 1. Après le passage de la tempête Aurore balayant toute la moitié nord du pays, hier 17 000 foyers étaient encore privés d'électricité à 22h. Si vous prévoyez de partir en Normandie, sachez que le trafic ferroviaire risque de connaître de nouvelles perturbations aujourd'hui, indique la SNCF. Un mouvement de grève des conducteurs a signalé d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, premier jour de départ en vacances de la Toussaint, par 3 syndicats de la compagnie qui réclament de meilleurs salaires et conditions de travail. Sur l'axe atlantique, noté 1 train sur 10 annulé aujourd'hui, 1/3 demain et dimanche.
On traverse à présent la Manche, direction le Royaume-Uni où la reine Elisabeth II a été hospitalisée.
Oui, dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital justement. Depuis, la reine est rentrée à Windsor. De quoi inquiéter ses sujets. Anaïs Cordoba, vous êtes notre correspondante à Londres, que sait-on de plus?
Alors, selon le communiqué du palais, la reine a été admise à l'hôpital pour des tests préliminaires mercredi, avant de rentrer au château de Windsor hier midi. Elle garde un bon moral, précise Buckingham. Aucune autre indication sur sa santé n'a été communiquée pour l'instant. Cette hospitalisation fait suite à l'annulation d'une visite officielle de la souveraine en Irlande du Nord mercredi, sur les conseils de ses médecins, qui lui ont recommandé le repos pendant quelques jours. Selon la presse britannique, qui cite des sources proches du palais, la reine a passé du temps à son bureau hier après son retour de l'hôpital. La dernière fois qu'elle a été vue en public, c'était mardi soir lors d'une réception officielle au château de Windsor. Elle y est apparue en bonne forme, mais à 95 ans, la nouvelle de cette hospitalisation est forcément un peu inquiétante, d'autant plus qu'il y a 10 jours, on a vu la reine se déplacer pour la première fois avec une canne en public.
Les précisions d'Anaïs Cordoba, notre correspondante à Londres.
Et Sir Elton John sort son nouvel album, le 32e aujourd'hui, très éclectique, dans lequel Rocketman se livre au jeu des duos venus de tous horizons, des nouvelles stars de la pop aux légendes comme Stevie Wonder ou le groupe Gorillaz. Il y en a pour tous les goûts, un retour pop-rock fracassant, Marie Jiquel.
Elton John compare cet album à une explosion, une bonne surprise. Il faut dire que ce nouveau disque n'était pas du tout prévu dans le planning de Sir Elton John, mais au printemps 2020, alors en pleine tournée mondiale, le voici, comme nous tous, invité à se confiner. Occupé par ses enfants et les séries télévisées, il se rapproche ensuite de ses voisins à Los Angeles, comme le jeune pianiste Charlie Puth, se fait approcher par la star des adolescents Dua Lipa et s'immerge dans la réécoute de Stevie Wonder. De quoi galvaniser le chanteur aux 800 millions d'albums vendus dans le monde. Il songe alors à ses lockdown sessions, traduisez ses séances confinées. Elton John ne se refuse rien, une reprise du groupe de métal Metallica, un duo avec la rappeuse américaine Nicki Minaj et donc un confinement réussi pour Rocketman qui pose pour la pochette avec un masque à paillettes.
Elton John, il sera en tournée d'adieu avec son farewell Yellow Brick Road et passera par la France. C'est complet pour le 11 juin 2022 à Paris, la Défense Arena. Il reste quelques places pour le 12. 3 autres dates prévues à l'Accor Arena à l'été 2023. Une tournée qu'il qualifie de spectaculaire.
C'est la 10e tournée d'adieu d'Elton John, hein. Il fait un peu une Polnareff. Hein.
Surtout celle-ci, elle dure des années.
Oui, voilà, c'est ça. C'est une tournée d'adieu.
C'est parce que je suis allé le voir en 2019, moi, la tournée d'accord. D'adieu d'Elton John.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
5h11, c'est l'heure des courses sur Europe 1, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir à Vincennes et mon pari gagnant sera le 704 It's Dollar Maker. Vainqueur de ses 4 premières courses, ce poulain possède à l'évidence un sacré potentiel et va effectuer ce soir des débuts très attendus sur l'hippodrome de Vincennes, le temple du trot. Jugé sur ce qu'il a réalisé en province, il devrait pouvoir sans aucune difficulté conserver son invincibilité. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la 7e course, le numéro 4, It's a Dollar Maker.
C'est noté Thierry Léger, vous revenez dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Bon réveil avec Europe 1. Ne manquez pas dans une minute notre pressing, votre pressing.
Oui, votre revue de presse décalée avec au menu notamment une star du foot, haute comme trois pommes. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour, merci de vous réveiller avec nous. Il est 5h12 et il est grand temps de retrouver la revue de presse la plus matinale de France. C'est le pressing avec aussi Martin Lange qui nous rejoint. Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour.
Bonjour
à tous.
Martin. On commence avec les unes de vos journaux. Pouvoir d'achat, un chèque, quoi qu'il en coûte. Titre Les Échos qui reviennent en une sur l'annonce principale hier soir de Jean Castex. On vous en parlait dans le journal. Une indemnité inflation de 100 euros versée à 38 millions de Français à partir de décembre. Coût de l'opération près de 4 milliards d'euros. L'école désarmée face à la montée de la violence, c'est le titre à la une du Figaro. Enseignants agressés en classe, rixes entre élèves armés, harcèlement, les élèves du secondaire peinent à endiguer une vague de brutalité inédite, nous dit le quotidien. Et puis, vacances de la Toussaint, une irrésistible envie de partir, voilà ce que l'on peut lire en une d'aujourd'hui en France. Les congés scolaires démarrent en effet ce soir et de très nombreux Français souhaitent s'évader en Espagne ou en Italie. Voilà pour les une, Omblin, on commence avec vous. Quel article avez-vous retenu ?
Quand un miracle trouve des explications scientifiques, c'est la formidable histoire à lire dans le magazine Society. Alors, retour pour commencer. En l'an de grâce, 1815, le 17 novembre, l'église du petit village de Bow, au cœur de l'Irlande du Nord, perd son prêtre James Maguire. Un prêtre pas comme les autres. James Maguire était considéré comme un sorcier. Un prêtre guérisseur. Dans un dernier souffle, il dit... Je prends un peu le temps. Après ma mort, la terre qui recouvrira mon corps pourra guérir tout ce que j'ai pu guérir de mon vivant. Les pèlerins viennent ensuite en nombre, vous imaginez bien, à Bow, toucher la terre sous laquelle repose le père Maguire, l'emporte avec eux aussi cette terre, s'enduisent complètement le corps. Intrigué, un microbiologiste, Jerry Quinn, se met à s'intéresser à cette légende et à cette terre miraculeuse. Non seulement il mène des études très sérieuses, mais il valide scientifiquement les propos du père Maguire sur son lit de mort. Pas de miracle là-dedans, non. C'est beaucoup plus terre à terre.
C'est de la science.
Exactement. Cette terre, c'est beaucoup plus terre à terre, personne n'en relève.
Excellent.
Cette terre
Excellent.
De Bow contiendrait simplement un médicament naturel, des bactéries antibiotiques, les streptomyces pour le Dr. Quinn. C'est un projet d'une vie et il étudie leurs effets sur les germes multirésistants très répandus dans les hôpitaux, des vilains germes qui résistent aux antibiotiques les plus répandus comme le staphylocoque doré connu pour causer de terribles abcès responsables aussi de la méningite, de la pneumonie. Eh bien, les streptomyces tuent ce staphylocoque doré. Donc découvrir des streptomyces dans la terre, sur la tombe du père Maguire est, je cite Society, une sacrée découverte. Beaucoup d'avancées scientifiques sont dues au hasard, c'est vrai, des avancées dans la médecine, les antibiotiques justement. Alexander Fleming en 1929 a découvert la pénicilline après avoir oublié de laver correctement son matériel avant de partir en vacances. Il revient et hop, un champignon a tué tous les germes dans sa boîte de pétri. Je résume, bien sûr. Society rappelle que la connaissance des antibiotiques est un savoir ancestral et pour le Dr. Quinn, les antibiotiques naturels sont plus efficaces pour ceux produits en labo. Et sachez qu'Alexander Fleming disait, alors je cite à peu près, les antibiotiques, c'est pas automatique, figurez-vous.
Déjà,
il disait qu'il fallait pas abuser de la chose.
Visionnaire ce monsieur, merci beaucoup. Omblin, Martin, à vous.
Oui, ce matin je vous parle d'un très jeune footballeur, il s'appelle Zayn Ali Salman, il vient d'être recruté par le club anglais d'Arsenal et devinez quel âge il a.
Je sais 10 pas, ans.
16, 17 ans.
4 ans.
On n'est pas dedans.
En fait, 5 depuis peu, hein, mais Zayn n'était même pas encore rentré à l'école quand Arsenal l'a recruté. Hein. Il était toujours à la crèche.
I practice a lot.
You practice?
Yeah. Like, I do magic skills.
Là, vous l'entendez dans un reportage de la BBC, hein, il parle de ses skills, ses
dribbles. C'est une blague, il a encore une tétine, ce gars.
Il est assez grand pour son âge, faut le dire. Alors, on peut le voir haut comme trois pommes avec son maillot beaucoup trop grand pour lui, sa tignasse brune qui lui barre le visage. Il enchaîne les dribbles, hein, ces fameux skills dont il parlait, face à des adversaires qui font parfois deux fois sa taille. Car oui, le petit Britannique, hein, ne joue déjà plus avec des enfants de son âge. Son entraîneur à l'Académie d'Arsenal a décidé de le surclasser car il était au-dessus de tout le monde, hein, de la tête et des épaules. Il joue donc contre des garçons de 8 ou 9 ans. L'homme derrière son recrutement s'appelle Stephen Deans. Lui non plus n'en revient pas d'avoir mis la main sur un diamant pareil. Cet enfant fait des choses qu'il ne devrait pas faire et il raconte sa stupéfaction lorsqu'il l'a vu avec un ballon pour la première fois. J'ai appelé un ami qui m'a dit « Il a 4 ans ». J'ai répondu « Impossible, il ne peut pas être à la crèche. Je dois parler à ses parents ». Ses parents, justement, ils sont très fiers de leur progéniture qu'ils n'hésitent pas à mettre en avant. Mais Zayn n'a que 5 ans, alors forcément, cette communication peut paraître un peu malsaine. Aujourd'hui, les jeunes footballeurs sont starifiés de plus en plus jeunes. Ils signent des contrats, rapportent de l'argent à leur famille, mais peu font finalement carrière. Et même ceux qui y parviennent, comme Neymar, qui a été starifié, lui, dès 15-16 ans, finissent usé mentalement assez jeune. Zayn, lui, ne gagne pas encore d'argent, mais vu son succès sur les réseaux sociaux, le Little Messi pourrait rapidement attirer des marques. En tout cas, il attire déjà d'autres grands clubs qui voudraient l'attirer dans leur filet. Et oui, il n'y a pas d'âge non plus pour les rumeurs de transfert. Zayn Al-Salman, le prodige recruté à 4 ans par Arsenal, c'est-à-dire sur le site du Figaro.
Je ne suis pas sûr que ce soit une très jolie histoire.
Non.
On verra.
Si
c'est un futur ballon d'or, on applaudira à quatre mains.
Mais c'est vrai que oui, c'est les parents qui utilisent leurs enfants.
Les réseaux sociaux, tout ça.
Voilà.
Bon, merci Martin. Un pressing un peu particulier en ce qui me concerne ce matin. Je n'ai pas choisi un article en particulier, mais une rubrique entière, l'actu des sciences, dans le magazine Science et Vie, dont le dernier numéro vient de sortir. C'est une compilation des dernières avancées de la recherche. Et je dois avouer qu'en ces temps angoissants, pandémique, / climatique, / politique, eh bien, ça fait du bien de lire que l'humain a encore du génie. Tenez par exemple ce nouveau moyen de contraception à l'étude. Il n'est ni mécanique, comme le stérilet, ni hormonal, comme la pilule qui provoque des effets indésirables chez de nombreuses femmes. Non, ce moyen de contraception utilise des anticorps sécrétés par certaines femmes, des anticorps les rendant stériles vu qu'ils attaquent la surface des spermatozoïdes. Intéressant, mais pas efficace à 100%. Alors, ces scientifiques américains ont prélevé ces anticorps et les ont rendus 16 fois plus puissants. Ils ont testé le tout sur des brebis dont l'appareil reproducteur est similaire à celui de l'humain et le résultat est bluffant. Injectés directement dans le vagin, les anticorps ont complètement immobilisé les spermatozoïdes en 2 minutes à peine, largement suffisant pour les empêcher d'atteindre l'ovule, le tout sans effet secondaire.
Alors comment on pourrait adapter cette technique à l'humain ?
Alors soit à travers un anneau intravaginal qui permettrait de libérer lentement les anticorps durant la période de fécondité, soit une autre technique non précisée qui pourrait être utilisés juste avant les rapports sexuels. Les essais cliniques devraient débuter en 2023. Autre avancée que l'on découvre dans Science et Vie, une fibre textile exempte de dérivés de pétrole. Est-ce que vous voyez le pull que je porte ? On dirait du 100% laine. Eh bien non,
du mouton.
C'est principalement de l'acrylique produit à base d'hydrocarbures. C'est pareil pour le polyester, le nylon, l'aramide ou encore l'élastane. Bref, 80% de ce que compose nos garde-robes vient de la pétrochimie et c'est un désastre écologique. Alors, fort de ce constat, des chercheurs ont mis au point une fibre textile constituée de ce que l'on a tous dans nos bras et nos jambes, la titine, une protéine géante. C'est elle qui assure l'élasticité de nos muscles. Alors, rassurez-vous, ces scientifiques n'entendent pas créer un textile composé de viande. Ils laissent ça à Lady Gaga. Non, ils ont réussi l'exploit d'entraîner des bactéries à produire cette protéine en grande quantité. En gros, je vous schématise, ils ont pris une grosse boîte de pétri, ils y ont mis leurs super bactéries et au bout de 20 heures de fermentation, ils ont obtenu l'équivalent de 250 mètres de fibres. Autant dire qu'à une échelle industrielle, on pourrait rhabiller la planète en un éclair, le tout sans une goutte de pétrole. Merci les bactéries.
Elles sont fantastiques les bactéries ce matin. Hein.
Ah oui.
Complètement réhabilitées dans le pressing. Ouais. Incroyable.
Tant mieux.
C'est vrai. Merci Julien. Rideau sur le pressing. Et on vous retrouve dans une quarantaine de minutes, Martin, pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Voici les principaux titres de ce vendredi. C'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros net mensuels vont recevoir un virement de 100 euros. C'est l'indemnité inflation annoncée par Jean Castex, le Premier ministre, hier en réponse à l'envolée des prix du carburant. 10 mois de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende. Ce sont les réquisitions à l'encontre de Karim Benzema au procès de la sextape de Mathieu Valbuena. Jugement attendu dans la journée. Début de la campagne de vaccination antigrippale, aujourd'hui avec 4 jours d'avance, l'occasion de faire d'une pierre 2 coups avec la dose de rappel contre le Covid en recevant les 2 injections en même temps. La reine Elisabeth II hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi pour des examens préliminaires. Elle est rentrée chez elle hier midi à Windsor et garde un bon moral, annonce le palais dans un communiqué. Et puis un accident mortel, Alec Baldwin, auteur d'un tir de pistolet qui a tué la directrice de la photographie sur le tournage du film Rush. Rust. Le réalisateur est également blessé.
Europe 1. 5h21, très bon réveil à tous avec à présent les initiatives en France. Notre coup de projecteur quotidien sur celles et ceux qui font bouger les lignes. Et ce matin, Julien, on prend la direction de Villers-Bretonneux dans la Somme.
Bonjour Serge Gelloul.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le fondateur d'Ibaner, une start-up basée dans la région d'Amiens. Et vous avez conçu un bijou de technologie, le premier kakémono à LED très haute définition et pliable. Ça fait beaucoup d'informations dit comme ça. En clair, c'est un écran géant multimédia et mobile, c'est bien ça?
Exactement, c'est un écran qui se rapproche des roll-up traditionnels qu'on a imprimés. Sauf que moi, j'ai transformé le produit pour le rendre digital et puis en gardant la simplicité d'utilisation, c'est-à-dire le peut rendre pliable et transportable facilement par n'importe quel utilisateur.
Alors pour que tout le monde visualise bien de quoi on parle, les kakémono, ce sont ces affiches ou panneaux publicitaires en tissu qui se déroulent et que l'on trouve sur les stands des salons professionnels par exemple. Et vous, vous en avez fait un écran pliable qui tient dans une valise.
Exactement. En fait, le roll-up kakémono, c'est l'outil de communication le plus utilisé au monde pour communiquer en salon, en mobilité. Mais ça reste de l'impression. Donc c'est vrai que le rendre digital, multimédia, c'était pour moi, c'est notre fer de bataille depuis 5 ans, 6 ans maintenant.
Il se déploie facilement, votre roll-up digital?
Alors en fait, nos impératifs à chaque fois, c'est qu'il soit utilisable par n'importe quel utilisateur. Donc l'idée, c'est de gommer toutes les problématiques techniques pour que n'importe quel utilisateur soit capable de l'utiliser. Il est vraiment à destination de tous les professionnels qui ont un besoin de communiquer en mobilité et qui n'ont pas forcément de compétences ou de connaissances techniques.
Alors c'est alimenté via une batterie ou il faut tout de même brancher l'écran sur une prise?
Alors à la base, en fait, 99% du temps, on le branche sur une prise parce que c'est l'utilisation la plus courante, mais on peut aussi y mettre une batterie derrière pour l'alimenter une journée.
Alors au-delà de l'aspect pliable, ce qui est bluffant, c'est la résolution de l'écran en 4K, c'est-à-dire que c'est comme les meilleures télévisions grand public du moment.
Exactement. La vraie problématique que j'ai toujours, qui est sur la technologie de pliage, c'est de rendre un écran pliable en haute définition. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique technique. Et nous, on a su passer outre pour en fait accepter n'importe quelle définition d'image. Donc effectivement, des gammes de produits qui démarrent de la HD et qui vont à la 4K et demain peut-être plus. Après, c'est une question surtout de coût plus que de problématiques techniques. Mais oui, on est sur de la très haute définition.
Vous avez mis combien de temps pour développer ce produit?
Écoutez, on en est à la 6e version. Pour arriver à ce qu'on présente aujourd'hui, c'est-à-dire un écran 4K, on a fait 6 versions différentes, globalement une version par an. Et on est parti d'une définition de 6 mm de pitch, en fait, d'écart entre les diodes, donc de basse définition, il y a 6 ans, qui était déjà une prouesse technique, et pour arriver à une résolution 4K aujourd'hui.
Alors, si j'ai bien compris, vous êtes en train de démarcher des clients potentiels avant, on vous le souhaite, de lancer la production à grande échelle. Vous visez quelle cible ?
La cible est très large. En fait, nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment répondre à un besoin pour les professionnels qui ont besoin de communiquer. Donc, c'est vrai que la cible est très large. Je vous avouerai que depuis 6 ans, en fait, nous, on a fonctionné pendant 6 ans grâce à aux clients qui ont plébiscité le produit. Et nos clients, c'est à la fois de la TPE, de la très petite entreprise, et jusqu'au grand groupe. EDF, des banques, des institutionnels, des mairies, des régions. En fait, on s'adresse vraiment à tout type de professionnel qui a besoin de communiquer en mobilité.
Ça coûte combien un Ibaner?
Alors, nous, on a une gamme de l'HD à la 4K. Notre gamme tarifaire, elle commence à environ 9 000 euros pour se terminer sur une très haute gamme à 15 000 euros environ.
Alors, au-delà du produit que vous nous présentez, j'aimerais que l'on parle un peu de vous, Serge Gelloul, parce que vous avez un parcours incroyable. Vous êtes un ancien hockeyeur international, champion de France en 1999 avec le club d'Amiens. Comment est-ce qu'on passe de la crosse de hockey aux écrans high-tech?
Assez simplement, le hockey sur glace en France, alors j'ai joué aussi un petit peu à l'étranger, mais en France, le hockey sur glace n'est pas un sport majeur. Donc on n'a pas d'autre alternative que de penser à sa reconversion. Et je dirais que c'est même très très bien pour l'esprit de penser à sa reconversion pendant la carrière, mais on n'a pas le choix dans le hockey sur glace. Donc en fin de carrière, il faut évidemment trouver un métier et de quoi s'occuper avec une passion aussi. Et moi, j'étais toujours attiré par la communication depuis, j'ai travaillé pendant que je jouais au hockey sur glace. Et naturellement, en fin de carrière, le multimédia me passionne. Et donc, j'ai monté différentes sociétés, structures de communication, une web agency en 2002 et puis une société tournée plus sur les écrans géants en 2014.
Merci beaucoup, Serge Gelloul, de nous avoir présenté votre innovation Ibaner, le premier kakémono à LED très haute définition et pliable. On vous souhaite beaucoup de succès.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à vous, il est 5h28. Dans un quart d'heure, Stéphanie Loire va nous faire écouter les meilleures sorties musicales de la semaine et notamment le dernier titre d'Angèle. Bruxelles, je t'aime, à 6h moins le quart. Mais juste avant, Omblin, vous allez nous parler d'un livre qui repose sur un principe élémentaire, expliquer un thème de culture générale de la manière la plus simple et avec le plus d'humour possible.
Oui, qui sont vraiment les francs-maçons, par exemple, Julien. Quand a été inventée la langue des signes et c'était qui, en fait, Rasputin, et quelle est la vraie histoire de Sissi? Il y en a plein d'autres comme ça, autant de questions que s'est posée l'humoriste et comédienne Marine Baousson, auteure d'un podcast à succès. Et elle sort un livre qui s'appelle Vulgaire, comprenez, vulgarisation de trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien. Il est question aussi des abeilles, de Monaco et même d'Amélie Mauresmo, figurez-vous. On sera avec Marine Baousson dans 10 minutes.
Vulgariser les nimbostratus et les isobars.
Ce sont des nuages, tout simplement.
Voilà. Merci Anessa Aladi. J'avais préparé une transition.
Oui, non, mais c'est bien. Non, c'est bien bossé. C'est
grande
bien
fraîcheur ce matin.
Oui, il va falloir se couvrir. En effet, les températures sont en baisse et en dessous des normales de saison. Avec ce matin au nord de la Loire, des petites gelées blanches. On a moins 1 degré au Mans ce matin, 0 à Charleville-Mézières, 4 à Paris, 6 à Saint-Etienne, 11 degrés à Dunkerque, 13 à Nice et 15 à Perpignan. Alors cet après-midi aussi, il va faire frais avec 12 degrés à Nancy. Vraiment, ça n'a rien à voir avec mardi. On avait jusqu'à 25-28 degrés. 14 degrés à Aurillac et Lille, 15 degrés à Paris et Quimper, 21 degrés pour Marseille, 23 pour Ajaccio. Alors dans le ciel, attention, on a beaucoup de brouillard sur toute la moitié nord ce matin. Une fois que les brouillards vont se dissiper, ce sont les éclaircies qui vont prendre le relais. Et puis le début de journée est un peu nuageux sur la moitié sud, mais va là aussi s'éclaircir dans l'après-midi. Le Mistral et la Tramontagne se réveillent et soufflent dans le sud.
L'automne est là. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à l'écoute d'Europe. Il est 5h30, c'est votre journal.
Europe 1.
Le début de la campagne de vaccination contre la grippe. Plus de 15 millions de Français sont concernés. Les autorités veulent éviter une flambée épidémique alors que le virus du Covid circule toujours. Jean Castex dégaine son chèque inflation pour lutter contre la hausse des prix. Une aide de 100 euros pour chaque Français touchant moins de 2000 euros net par mois. Premier versement en décembre. Le sommet européen, Bruxelles joue l'apaisement et privilégie le dialogue pour dénouer la crise avec la Pologne. Et puis le centenaire de la naissance de Georges Brassens. Europe 1 poursuit son hommage au chanteur toute la journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. L'épidémie de coronavirus en a fait oublier une autre, la grippe saisonnière. Les autorités lancent la campagne de vaccination ce vendredi avec 4 jours d'avance sur le calendrier prévu. Plus de 15 millions de Français sont concernés, les plus de 65 ans essentiellement, et les personnes atteintes de certaines pathologies. L'objectif des autorités est clair: éviter que l'épidémie de grippe ne vienne se superposer à celle du Covid. Explication Afsaneh Sabouhi.
Les personnes concernées par ces deux injections sont globalement les mêmes. Les plus de 65 ans, les malades chroniques, les femmes enceintes et les professionnels de santé. Donc les autorités sanitaires ne veulent pas rater une opportunité de leur proposer le vaccin contre la grippe en même temps que leur dose de rappel anti-Covid. On évite juste de piquer deux fois au même endroit, donc ce sera une injection dans chaque bras. Plus pratique et sans risque, comme l'explique le virologue Bruno Lina, spécialiste des virus grippaux.
Premièrement, ces deux vaccins sont bien tolérés. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre ces deux vaccinations. Au contraire, il y aurait peut-être même un phénomène d'entraînement. Et sur les données que l'on a sur un certain nombre de co-administrations qui ont été déjà faites, il n'y a pas de problème de sécurité.
Se faire vacciner contre la grippe pour les personnes à risque est encore plus important cette année. En fait, l'hiver dernier, le virus n'a pas du tout circulé et le Covid avait complètement pris le dessus. Du coup, cette année, nous avons moins d'immunité collective contre la grippe. D'ailleurs, le ministère de la Santé a pris ses précautions et commandé 17% de doses de vaccins supplémentaires.
Afsaneh Sabouhi.
Le gouvernement sort à nouveau le chéquier pour lutter contre la flambée des prix et pas seulement ceux du carburant.
100 euros pour toutes les personnes gagnant moins de 2000 euros net par mois. Cette indemnité inflation ou chèque classe moyenne sera versée, que vous soyez propriétaire ou non d'une voiture, puisque l'inflation touche aussi les produits de consommation courant. Coût pour les finances publiques, 3,8 milliards d'euros. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé le blocage des prix du gaz jusqu'à la fin de l'année prochaine.
Et l'opposition n'est guère convaincue par le dispositif.
Politique du chéquier grand ouvert qui ne réglera rien, raille le député candidat à la primaire LR Éric Ciotti. Du charabia pour le patron du RN Jordan Bardella. Une indemnité de la trouille, réplique l'insoumis Éric Coquerel. Mais qu'en pensent les premiers intéressés, c'est-à-dire les consommateurs? Notre correspondant à Bordeaux est allé à leur rencontre. Stéphane Place, reportage.
Jean Castex vient tout juste d'annoncer le coup de pouce destiné aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois.
Yara, qui est en train de faire son plein, apprend la bonne nouvelle.
Ah, mais je ne savais pas, mais je suis super contente. Je vais payer mon plein là, parce que je vais travailler pour payer mon plein finalement, en fait. Non, c'est cool.
100 euros, ce n'est pas rien pour Laurence, qui travaille à l'hôpital.
Moi, j'ai fait un plein à 70 euros, donc je fais très attention à tout. Moi, je n'ai pas droit à une aide pour le chauffage, je me chauffe très peu l'hiver. Enfin, je ne dilapiderai pas cet argent, de toute façon, ça c'est sûr. Ça ne va pas me servir à dépenser pour des plaisirs un peu futiles, entre guillemets.
Laurent est concerné par la mesure, puisqu'actuellement, il est en recherche d'emploi.
C'est toujours bon à prendre, mais ça reste de la poudre aux yeux. Bah, je vais mettre de l'essence dans la voiture.
L'heureux propriétaire de cette Mercedes salue la mesure. Lui ne peut y prétendre, mais se réjouit pour celles et ceux qui vont en bénéficier.
Je suis médecin généraliste, je gagne bien ma vie. Mais bien sûr, il faut le faire. Des gens qui utilisent leur voiture tous les jours.
Le carburant ou pas, Michel, retraité, s'en servira peut-être, pour toute autre chose, surtout si le versement intervient en décembre.
C'est un petit coup de pouce, on verra.
Ça peut aider à...
Au cadeau. Ouais.
Indemnité, inflation, a dit le Premier ministre, et pas carburant uniquement. De toute évidence, le message a été reçu.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Attention, les premiers versements sont attendus dès le mois de décembre.
On reste dans la région Nouvelle-Aquitaine et même au-delà, puisque la circulation des trains sera perturbée par un mouvement de grève.
La direction de la SNCF annonce 2 TGV sur 3 seulement sur son axe atlantique demain et dimanche. Cela comprend la Bretagne, les Pays de Loire, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine donc et l'Occitanie. Autre perturbation, mais celle-ci n'est pas liée à la grève d'une partie des cheminots, mais aux conséquences du passage de la tempête Aurore. Le trafic devrait revenir à la normale sur les lignes SNCF de Normandie, même si des perturbations sont encore à prévoir. Dans les Hauts-de-France, 17 000 foyers sont toujours privés d'électricité.
Le sommet européen, Bruxelles joue l'apaisement avec la Pologne.
Et au centre de ce bras de fer, la question de la primauté du droit européen sur le droit national. Disposition contestée et rejetée par Varsovie. On redoutait une crise. Elle n'a pas eu lieu. Isabelle Horry, les Européens donnent la priorité au dialogue.
Oui, les 27 se sont épargnés la séquence dîner de famille où tout le monde se déchire. Le sujet est sans doute trop grave. Pour cela, il ne faut pas que la situation devienne hors de contrôle, a mis en garde Angela Merkel dans la réunion. La discussion de plus de 2h30 a donc été posée et très sérieuse. Le président du Conseil européen avait choisi de la placer juste avant le repas pour qu'elle ne s'éternise pas. Il a misé sur l'appétit des participants. Alors le Premier ministre polonais n'a pas reculé. Il estime que son pays est victime d'un deux poids deux mesures. Sans surprise, le Hongrois Viktor Orban a volé à son secours. En face, les autres dirigeants ont serré les rangs. Ils soutiennent la Commission européenne qui retient plus de 30 milliards d'aides destinées à la Pologne. Mateusz Morawiecki s'est juste engagé à dialoguer avec Bruxelles sur son système judiciaire. Même si la crise ouverte a été évitée, soyons francs, on n'a pas obtenu grand-chose, a lâché cette nuit le Premier ministre belge.
Isabelle Horry, Elisabeth II est rentrée au château de Windsor. La reine d'Angleterre a dû passer la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital pour passer des examens présentés comme préliminaires. Les médecins lui ont recommandé du repos. Et puis aux États-Unis, une terrible méprise provoque la mort d'une femme de 42 ans sur le tournage d'un western dans le Nouveau-Mexique. Le tireur n'est autre qu'Alec Baldwin. L'acteur aurait tiré avec un pistolet servant d'accessoire sans savoir qu'il était chargé à balles réelles, blessant mortellement la directrice de la photographie. Le réalisateur a été également blessé et admis à l'hôpital.
Les 100 ans de la naissance de Georges Brassens, nous continuons de rendre hommage sur Europe 1 à l'un des chanteurs les plus populaires du pays.
Un tout sonore sera diffusé ce soir sur notre antenne dès 21h. Georges Brassens a durablement marqué la chanson française et influencé une multitude d'artistes. Son héritage est immense, comme en témoigne Joël Favreau. Le musicien l'a accompagné à la guitare, que ce soit sur scène ou dans les studios d'enregistrement.
Vous savez, la chanson « La complainte des filles de joie », peu après la sortie du disque, il avait reçu une lettre d'un collectif de prostituées qui le remerciait pour la compassion dont il avait fait preuve à leur égard. En sortant du théâtre, je me souviens que c'était à Roubaix, il y avait des dizaines de ces dames qui attendaient Brassens en tenue de travail, et pas pour offrir leur service. Et quand il est sorti, ils lui ont fait une ovation. Ben ça marque.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent.
Joël Favreau, ex-musicien de Georges Brassens avec Marie Jiquel. Le football et les bons résultats des clubs français en Europa League. Lyon bat le Spartak Moscou 4-3. Victoire de Monaco sur le PSV Eindhoven 2-1. Enfin, match nul de Marseille sur la pelouse pelouse de la Lazio Rome 0-0. Et puis ce soir à 21h, Saint-Etienne affrontera Angers en ouverture de la 11e journée de Ligue 1.
Et on reviendra sur toutes ces actualités sportives dans le journal des sports à 6h10 avec Martin Lange. Et je précise aussi qu'on reviendra sur la carrière de Georges Brassens dans votre partition Omblin à 6h20. C'était le journal de 5h30 présenté par Christophe Lamarre. Merci Christophe. On passe aux courses avec Thierry Léger et ses pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes que se disputera ce quintet, une course européenne au trot attelé qui réunira 14 chevaux âgés de 6 à 10 ans avec un favori solide, l'italien Victor Ferme, le numéro 7, longtemps absent et qui après 3 courses de rentrée va cette fois se présenter à son meilleur niveau, ce qui devrait lui permettre de renouer avec la victoire, n'ayant certainement pas encore les gains en rapport avec ses moyens. On lui opposera les numéros 12 Equinox JL en plein boom et désormais capable d'aligner les bonnes performances. 2 Paillette en constant progrès. 10 Fréja Dupont en regain de forme après une longue traversée du désert. Et 4 Falco Berry avec lequel ce sera une nouvelle fois une question de sagesse. Enfin les numéros 3 Rediribe, 11 Baron des Doux et 9 Valzer di Poggio compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 12, 2, 10, 4, 3, 11 et 9.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain avec Thierry Dagiral. Il est 5h39 dans un instant. Le livre vulgaire de l'humoriste et comédienne Marine Baousson, ou comment combler nos quelques lacunes en culture générale de manière simple et avec humour.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bon réveil, excellent vendredi matin avec Europe 1. Il est 5h40 et on ouvre à présent le livre de l'humoriste et comédienne Marine Baousson, baptisé Vulgaire, avec en sous-titre Vulgarisation de trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien. Il y a toutes sortes de notions qui paraissent évidentes. Sauriez-vous décrire par exemple le fonctionnement des marées, des questions qui ne sont pas si simples que ça parfois pour certains d'entre nous, même si on n'ose pas l'admettre.
Bonjour.
Alors j'ai fait comme vous, j'ai regardé sur internet pour trouver la définition du mot vulgaire sur larousse.fr pour tout vous dire, c'est écrit « qui est sans aucune élévation, qui est ordinaire, prosaïque, bas, commun ». Votre démarche c'est quoi? De vulgariser des trucs censés être ordinaires, communs?
En fait un peu oui, parce que par exemple je pars de Marignan 1515, moi j'ai toujours entendu parler de cette date, j'ai toujours su que Marignan c'est en 1515. En vrai, je savais pas à quoi ça correspondait. Je parle de ça, en fait, c'est-à-dire de dire, il y a plein de choses qu'on est censé connaître tous et toutes. Et en fait, moi, il s'avère que je les connais pas. Donc, je fais des recherches dessus, puis j'essaye de les expliquer de manière un peu marrante, quoi.
Alors, à l'origine, Vulgaire est un podcast qui a été récompensé par un prix Apple et Radio France. D'abord, félicitations.
C'est deux prix différents. Ça, c'est la classe.
Oui, deux prix différents. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un livre?
Très rapidement, en fait, je me suis dit, ah, je pense que ça s'adapte très bien au livre. Et assez rapidement aussi, en fait, j'ai été contactée pour le faire. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui l'écoutaient, je me suis dit, ça pourrait devenir un spectacle. Et puis, j'ai eu très vite cette envie que ça existe, mais que ça existe pas seulement avec le texte. J'avais envie qu'on voit aussi d'autres choses et puis qu'on puisse ressentir tout ce qu'il y a de vivant dans le podcast. C'est-à-dire qu'il y a des vannes, il y a plein de petits sons qui apparaissent aussi. Donc, j'avais envie que ça apparaisse et j'ai eu de la chance parce que ma graphiste, celle qui fait toutes les illustrations du podcast à chaque fois, qui s'appelle Juliette Poney, a décidé de me suivre. Et finalement, je pense que c'est elle qui a le plus travaillé sur ce livre parce que c'est une adaptation, mais c'est Juliette qui a fait énormément, énormément de dessins pour que les vannes passent et que ce soit très vivant finalement.
Vous vous êtes aussi retrouvés comme nous tous au milieu d'un repas en train d'acquiescer pendant une discussion et en réalité, vous faisiez semblant de comprendre ce qui se disait. Ce livre, c'est donc pour nous décomplexer un peu.
C'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé à faire ça, je me donnais aucune mission à part faire rire les gens. Et maintenant que j'y réfléchis, et puis maintenant aussi que je suis confrontée vraiment chaque semaine à ma propre ignorance, il y a un truc comme ça de se dire je le fais, mais aussi pour que des gens arrêtent de se sentir bêtes. Et je trouve qu'il y a un vrai truc aujourd'hui quand les gens qui savent, eh ben, on les respecte, puis ceux qui savent pas, du coup, il y a un côté où ils sont bêtes, quoi. Et en fait, non, c'est juste qu'on n'a jamais pris le temps d'expliquer simplement. Moi, souvent, vraiment, je me retrouve face à chercher des informations et à me rendre compte que finalement, personne n'explique la base. Et donc, c'est plus compliqué pour moi de comprendre parce que finalement, c'est compliqué d'aller chercher l'information à son tout début, quoi. J'avoue, c'est vraiment un bouquin qui permet de, éventuellement, de se la péter dans les dîners chiants, quoi. parce qu'on pourra dire, ah, mais tu savais que Sissi était née avec une dent? Bah voilà, moi je le sais maintenant. Donc on peut donner des infos comme ça grâce à ce livre, quoi.
Votre livre est plein d'humour, hein, on l'a dit, c'est évidemment la base de votre démarche. Alors je vais prendre un autre exemple, celui du Joan Culas. Votre explication démarre comme le sketch d'un one woman show, mais ensuite vous expliquez vraiment cylindre, vilebrequin, chambre de combustion. Donc vous dispensez un vrai cours de mécanique. À la fin de chaque chapitre, on a vraiment appris quelque chose. On n'est pas, on rit, mais on apprend.
Bah c'est le but, quoi. C'est vraiment le but. Mmh. Et puis, en fait, je me dis qu'avec l'humour, on peut vraiment comprendre mieux, quoi. Et moi, en fait, vraiment, par exemple, j'ai travaillé sur la rate. Alors, c'est pas dans le livre, mais j'ai fait une vanne où je disais, la rate, c'est la carafe Brita de l'organisme. Et du coup, maintenant, moi, c'est entré dans ma tête parce que je visualise, en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire toujours. Et dans ce livre, en plus, on a les dessins pour comprendre. Et par exemple, vous parliez des marées tout à l'heure. C'était pas facile d'expliquer dans le podcast, mais dans le livre, finalement, avec les dessins de Juliette Ponet, c'est beaucoup plus simple, quoi, de comprendre. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de marée à Nice, par exemple. Et en fait, si, il y en a, c'est juste qu'elles sont beaucoup plus petites parce que c'est une mer qui est fermée. Enfin, voilà. C'est des trucs. Moi, je ne fais que apprendre des trucs et finalement, c'est vraiment génial, en fait, d'apprendre des trucs et de me dire j'ai appris des trucs et les gens, ils vont pouvoir lire ça chez eux. Je trouve ça incroyable.
Passer de Sissi l'impératrice au clitoris, puis aux abeilles, aucun sujet ne vous fait peur?
On m'a beaucoup demandé, par exemple, d'expliquer le conflit israélo-palestinien. Je suis là, off. C'est compliqué quand même, il y a des sujets qui sont plus difficiles que d'autres, évidemment, mais
c'est difficile de rester drôle aussi, même quand vous expliquez Jean Moulin ou le célèbre procès de Bobigny, il faut rester, faire de l'humour, c'est pas simple.
Bah, vous venez de citer deux de ceux qui étaient très émouvants à faire particulièrement, parce que, par exemple, quand j'ai lu tout le discours de Gisèle Halimi, qui était incroyable pendant le procès de Bobigny, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Et pareil, Jean Moulin, finalement, moi, je pensais que ça allait être un personnage assez simple. Et en fait, je me suis retrouvée à chercher des trucs sur les résistants, sur les mecs qui venaient témoigner, qui racontaient leurs histoires. Et finalement, en fait, chaque sujet m'amène toujours un peu plus loin que ce que j'avais prévu. Et c'est ça qui est hyper touchant. Et j'espère, en tout cas, que ça se ressent dans le livre et que les gens... voir en fait que moi je suis tombée amoureuse de chacun de mes sujets et que ouais Jean Moulin j'en suis un peu tombée amoureuse, ouais Sissi aussi, enfin il y a un truc comme ça, Rasputin c'est incroyable, la mort de Rasputin elle est folle, enfin c'est-à-dire que c'est en plein d'étapes, à chaque fois on pense qu'il est mort puis en fait il est pas mort et en fait je trouve ça incroyable quoi, et donc ouais je tombe vraiment amoureuse de ces sujets.
Merci beaucoup Marine Baousson d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes humoriste, comédienne et auteure du livre Vulgaire qui paraîtra chez Flammarion vendredi prochain avec des illustrations de Juliette Ponet. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Allez, c'est au tour de Stéphanie Loire à 5h46 de nous expliquer comment on fait des tubes.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous, bonjour Ambline, bonjour Julien.
Alors au rayon des nouveautés musicales du jour, Stéphanie, il y a la réédition d'un album légendaire des Rolling Stones.
Oui, le 19 août dernier, les Rolling Stones avaient annoncé la sortie d'une version de luxe de l'album de légende Tattoo You pour célébrer ses 40 ans. Une version retravaillée du disque paru en 1981 et vendu à plus de 4 millions d'exemplaires qui sort enfin aujourd'hui. C'est un extrait d'une version remasterisée de l'emblématique Start Me Up qui figure sur Tattoo You. Et Tattoo You, c'est un album tout simplement légendaire, aussi parce que dès sa création, il n'est constitué que de chutes de studio issues des sessions des 5 albums précédents du groupe. Rien n'a été écrit en 1981 spécialement pour cet album, puisqu'à cette époque, les Stones préparent leur tournée des stades aux États-Unis. Ils ont d'autres chats à fouetter et ils n'ont pas de nouvelles chansons en stock pour sortir un album. Mais c'est l'ingénieur du son Chris Kinsey qui suggère l'idée d'utiliser les morceaux qui dormaient dans les tiroirs du groupe. Ces chansons sont alors retravaillées, parfois même réécrites par Mick Jagger. Et ça se révélera être une excellente idée puisque dès sa sortie, il se hisse au sommet des charts du monde entier, s'il vous plaît. Mais pour revenir sur la réédition qui sort aujourd'hui, elle est aussi accompagnée par l'intégralité du live à Wembley de 1982. On On y retrouve surtout 9 titres inédits composés d'outtakes, des chansons abandonnées, réarrangées avec des chœurs et des parties guitare ajoutées, dont le fameux « Living in the Heart of Love ». Un titre dont le clip a été dédié au défunt batteur Charlie Watts qui nous quittait le 24 août dernier. On va écouter un autre extrait d'un titre inédit de cette version de luxe de Tattoo You des Stones, cette fois une ballade qui s'appelle Drift Away.
Et Stéphanie, vous avez une autre nouveauté à nous présenter, le nouveau titre de la chanteuse belge Angèle.
Les Belges prennent la scène musicale d'assaut. En effet, une semaine après le grand retour de Stromae avec Santé, c'est au tour d'Angèle de dévoiler un nouveau single, 3 ans après la sortie de son premier album Brawl, qui vient d'ailleurs d'être certifié double disque de diamant puisque vendu à 1 million d'exemplaires en France. Un album porté entre autres par le succès de Balance ton quoi, un tube qui a fait d'elle une icône féministe en plus d'être celle de toute une génération.
Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi, donc laisse-moi te chanter.
Des tubes écoutés plus de 2 milliards de fois en streaming avec ce nouveau single Bruxelles, je t'aime, qui a été dévoilé hier à 17h. La chanteuse rend hommage à sa ville natale. C'est une déclaration d'amour à la capitale dont l'idée est d'ailleurs née pendant le confinement parce qu'elle était loin de chez elle. Le nouvel album d'Angèle, dont ce premier titre est issu, devrait sortir le 10 décembre prochain.
Merci beaucoup Stéphanie Noir et je vous propose que l'on écoute tout de suite ce dernier titre d'Angèle, Bruxelles, je t'aime, sur Europe 1. Eh ben non, on va l'écouter plus tard.
Le tout nouveau titre d'Angèle dont vient nous parler. Stéphanie Loire, c'est parti.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Bruxelles, je t'aime, c'est le tout dernier titre d'Angèle.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h53 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce vendredi avec Alban Le Prince.
Indemnité, inflation, c'est le nom du coup de pouce annoncé hier soir par Jean Castex pour compenser la flambée des prix à la pompe. Un virement de 100 euros qui arrivera directement sur le compte bancaire des 38 millions de Français payés moins de 2000 euros net par mois. 17 000 foyers toujours privés d'électricité à 22h après le passage de la tempête Aurore hier. Attention, pour ce premier jour de départ en vacances, le trafic fait ferroviaire entre Paris et la Normandie risque d'être à nouveau perturbé. Et puis un accident mortel sur le tournage de Rust aux États-Unis. L'acteur Alec Baldwin a tué, vraisemblablement par accident, par balle. La directrice de la photographie du film est grièvement blessé. Le réalisateur du western. Les enquêteurs tentent de savoir quel type de projectile a été tiré.
Europe Matin.
On ouvre maintenant vos quotidiens locaux. C'est en France, un article de la presse régionale raconté par celles et ceux qui l'ont écrit.
Bonjour Kate Stent.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes journaliste à Ouest-France qui ce matin nous fait traverser la Manche direction le Pays de Galles où vous vous trouvez et plus précisément Cardiff, là où se déroule depuis le début de la semaine le procès de David Henderson. C'est l'homme qui aurait dû piloter l'avion dont le crash en mer a coûté la vie à l'ancien attaquant du FC Nantes, Emiliano Sala. Et l'accusé a pour la première fois pris la parole publiquement.
Oui, il a parlé hier, donc pour la première fois, il a répondu aux questions de son avocat et ce matin, du coup, il devra répondre aux questions du procureur Martin Goudy. Alors Henderson a expliqué en détail l'organisation du vol, donc il a expliqué avoir été contacté le 17 janvier 2019 par l'agent d'Emiliano Sala, donc qui s'appelle Willie McKay, et qui lui demande s'il peut assurer le transport de Sala entre Nantes et Cardiff. Anderson a expliqué donc qu'il ne pouvait pas ce week-end-là, qu'il était à Paris avec sa femme. Et devant ce qu'il a appelé au tribunal l'insistance de McKay, Anderson en fait propose ce vol à un pilote qu'il a déjà fait travailler à de nombreuses reprises et qui s'appelle David Ibbotson.
Mais comment explique-t-il qu'il ait confié ce vol à un homme, on l'a découvert après coup, David Ibbotson, qui n'avait pas de licence de pilote commercial, pas de qualification pour ce type d'appareil, ni la compétence pour voler de nuit. Ça fait beaucoup quand même.
Bah, en fait, Ibbotson a travaillé les mois précédant l'accident à plusieurs reprises pour David Anderson. Et en fait, la défense a expliqué là, au tribunal cette semaine que certes, il n'a pas tous les papiers nécessaires, Ibbotson, mais qu'il reste un pilote aguerri. Il a à peu près 3500 heures de vol à son actif et qu'il est habitué à piloter cet avion. Et en fait, ce qu'on comprend en écoutant la défense, c'est que en fait, tout s'est enchaîné très vite. Anderson, il est prévenu deux jours avant qu'il y a un aller-retour à faire. Lui, il n'est pas dispos. Il propose à un pilote qui accepte. L'agent dit OK. Et puis voilà, je pense que tout ça s'est fait très vite. Et sur la question du vol de nuit... On l'avait déjà dit, ça d'ailleurs, David Anderson a expliqué au procès que quand il propose ce voyage à Ibbotson, le vol retour est prévu en journée. Il a été décalé ensuite, mais à la base, ce vol retour est prévu le lundi matin.
Il encourt quelle peine, ce David Anderson?
En fait, il est poursuivi par la CIA, donc qui est l'organisme public qui réglemente l'aviation au Royaume-Uni. Et il répond à deux chefs d'accusation. Pour le premier, qui concerne l'organisation d'un vol commercial sans les autorisations nécessaires. Donc, pour ce chef d'accusation-là, il s'est déclaré coupable lundi. Et donc là, il encourt une peine maximale de 2 années d'emprisonnement. Et pour le second chef d'accusation, donc, qui est tout l'enjeu de ce procès, il encourt une peine maximale de 5 années d'emprisonnement.
Merci beaucoup, Kate Stent, de nous avoir raconté en direct depuis Cardiff vos articles à lire ce matin dans Ouest France. Très bonne journée à vous.
Merci.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil sur Europe 1, il est 5h57 et au programme de la prochaine demi-heure, Julien, un réseau social à la croisée des chemins.
Un réseau social qu'utilisent près de 3 milliards de personnes dans le monde, des chiffres en constante hausse et pourtant, Facebook traverse la pire crise de sa jeune histoire. Accusé de tous les maux, de nuire à la démocratie, voire à la santé mentale de ses utilisateurs, le géant américain qui comprend aussi Instagram et WhatsApp est acculé de toutes parts à tel point que le groupe aurait décidé de changer de nom et de cœur de métier à travers le métavers. traverse. Vous avez peut-être entendu ce mot barbare ces derniers jours, mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que cela suffira à sauver le soldat Facebook? On va poser toutes ces questions dans 10 minutes à Jérôme Colombin, grand spécialiste du numérique. On écoutera ensuite en bline votre partition.
Et on célèbre le centenaire de la naissance de Georges Brassens.
Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps.
Georges Brassens qui s'est réfugié chez Jeanne et Marcel Planche après avoir déserté le service du travail obligatoire allemand en mars 1944. Le récit dans 20 minutes.
Anissa Haddadi, attention au brouillard ce matin.
Et oui, on a le retour d'un temps calme, donc on a le retour des matinées automnales, donc en Haute-Normandie, dans les Ardennes, la région parisienne, en Bourgogne, en Alsace, sur l'Nivernais, le centre, le nord de la Gironde. Soyez très prudents ce matin sur une grande partie de la moitié nord. À part la Bretagne, eh ben, on a beaucoup de brouillard et des nuages bas. Après la dissipation de ces nuages, le soleil va s'imposer partout, donc patience. C'est sur la moitié sud ce matin, entre les Pyrénées et les Alpes, c'est là que le ciel est le plus couvert, avec même des flocons à partir de 1300 mètres d'altitude dans les Alpes. Cet après-midi, les nuages alternent avec les éclaircies, mais souvent le soleil l'emporte partout. Le Mistral et la Tramontane soufflent jusqu'à 70 km/h et les températures passent en dessous des normales de saison. Moins 1 au Mans, 4 à Paris, 9 à Périgueux, 12 à Marseille ce matin et cet après-midi, comptez 12 à 22 degrés.
Couvrez-vous, merci Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous. C'est votre journal. Il est 6h. Indemnité inflation, c'est la surprise du chef du gouvernement. Une prime de 100 euros pour les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Après 10 jours de tergiversation, Jean Castex a présenté la mesure hier soir. C'est l'information de la nuit, une femme tuée accidentellement sur le tournage d'un western aux États-Unis et le tireur n'est autre que l'acteur star Alec Baldwin. Adjugé à 6 600 000 euros, somme record pour le squelette d'un dinosaure vendu hier aux enchères. Son petit nom, Big John, le plus grand tricératops jamais retrouvé.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. À situation exceptionnelle, aide exceptionnelle, dixit Jean Castex qui a présenté hier soir son indemnité inflation. Une prime de 100 euros pour les 38 millions de Français avec un salaire inférieur à 2000 euros net par mois. Un bonus versé en une seule fois à partir de décembre pour contrer la hausse des prix du carburant, de l'électricité et des produits alimentaires.
Finalement, pas de baisse des taxes ni chèque carburant. Option d'abord privilégié par le ministre de l'économie. Jacques Serret, à 6 mois de l'élection présidentielle, le gouvernement aura mis du temps à prendre une décision.
Oui, c'est finalement l'équation trouvée par le gouvernement après 10 jours d'hésitation. Cibler ceux qui ont le plus besoin de cette aide, tout en voyant large pour ne pas oublier la classe moyenne. D'où ce seuil fixé à 2000 euros net, le salaire médian en France. Il y a autant de Français qui gagnent plus de 2000 euros que de Français qui touchent moins que cette somme, a rappelé Jean Castex. Bercy était de toute façon foncièrement contre l'idée d'une baisse des taxes sur les carburants, trop coûteuse et surtout avec le défaut de concerner tout le monde sans distinction. Là, avec ce chèque inflation, 38 millions de Français sont concernés. Chèque inflation et non pas chèque carburant, comme cela pouvait circuler ces derniers jours. Car si la visée première est bien d'aider les automobilistes face à la hausse des prix à la pompe, l'exécutif ne veut pas non plus donner l'impression de subventionner la consommation d'énergie polluante. L'environnement et l'écologie occupent une place de plus en plus importante dans les préoccupations des Français. Le choix des mots, l'ampleur de l'annonce, nous sommes bien à 6 mois de la présidentielle.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1 a noté aussi que le prix du gaz en France sera bloqué tout au long de l'année prochaine et non pas jusqu'en avril comme annoncé initialement par le Premier ministre.
L'environnement, l'un des thèmes de préoccupation des Français, nous disait à l'instant Jacques Serret, eh bien l'exécutif pourra profiter d'un symbole fort aujourd'hui, le redémarrage du train des primeurs entre Perpignan et Rungis.
Après 2 ans à quai, départ aujourd'hui à 16h28 pour les 12 wagons réfrigérés chargés de fruits et légumes, un convoi réduit de moitié mais qui permet d'éviter un transport des marchandises par la route. 16 000 camions traversent déjà chaque jour la frontière franco-espagnole du Pertus.
Le jugement sera rendu aujourd'hui, dernier jour du procès de la sextape du footballeur Mathieu Valbuena. L'audience reprend à 9h30 au tribunal judiciaire de Versailles.
Karim Benzema, absent au procès, est poursuivi pour tentative de chantage contre son ancien coéquipier. Hier, le parquet a demandé 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Des réquisitions sévères et disproportionnées pour mettre Antoine Vey, avocat de Karim Benzema.
C'est le nouveau principe d'une justice à rebours qui veut que quand on est connu, on ne soit pas jugé pareil. Et c'est le cas depuis le début de ce dossier. Monsieur Benzema pouvait ne pas être placé en garde à vue. Monsieur Benzema pouvait ne pas avoir toutes les fuites du monde. Monsieur Benzema avait droit à la présomption d'innocence. Il n'en a pas eu pendant 5 ans, ça lui a été aussi très dommageable. Je ne veux pas en faire la victime de ce dossier, c'est pas lui la victime de ce dossier. Mais quand même, on peut se dire qu'entendre dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est connu, parce qu'on a des responsabilités, on doit être jugé différemment, c'est assez choquant. Donc c'est vrai que la relaxe, pour nous, paraît évidente dans ce dossier.
Maître Antoine Vey, avocat de Karim Benzema, au micro de Jean-François Pérez.
6h03 sur Europe 1, on prend maintenant la direction des États-Unis où une femme a été tuée accidentellement sur le tournage d'un western. Le réalisateur aussi a été blessé, réalisateur du film.
Et l'auteur du tir n'est autre que l'acteur Alec Baldwin. Alexis Guieux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Cet accident, c'est à cause d'une arme à feu qui servait d'accessoire. Un pistolet actionné par erreur par la star américaine.
Oui, et l'acteur est également le coproducteur de ce long métrage, Rust, tourné dans la région de Santa Fe. Il y incarne un hors-la-loi. Et alors que l'équipe filmait une scène en début d'après-midi, Alec Baldwin a utilisé une arme à feu, un de ses accessoires, et a touché deux personnes. La directrice de la photographie, Alina Hutchins, elle est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. L'autre victime, c'est le réalisateur, Joel Souza, qui est encore hospitalisé à cette heure-ci. Alors, beaucoup de questions restent sans réponse. On ne connaît pas l'arme utilisée, on ne sait pas avec quoi elle était chargée. La police privilégie la thèse de l'accident. Aucune arrestation, aucune charge retenue. Les témoins continuent d'être interrogés et l'enquête se poursuit selon le bureau du shérif local pour comprendre comment un tel drame a pu se produire.
Précision signée Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Elisabeth II est rentrée au château de Windsor. La reine d'Angleterre a passé la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital pour des examens présentés comme préliminaires. Ses médecins lui ont recommandé quelques jours de repos.
6 600 000 euros, une coquette somme. C'est en tout cas le prix à payer pour acquérir un dinosaure.
Ou plutôt un squelette de dinosaure, celui de Big John, 66 millions d'années. Un tricératops le plus grand jamais retrouvé. Il a été vendu aux enchères hier, 4 fois plus que sa valeur estimée. Maître Alexandre Gicello est le commissaire-priseur de l'hôtel Drouot à Paris.
Cette vente avait de particulier d'une spécialité qui est quand même rare, avec un spécimen encore plus rare par sa qualité, complet à plus de 60%, le crâne complet à 75%. Et ont suscité énormément d'intérêt avec beaucoup de clients sur tous les continents qui souhaitaient participer aux enchères. Donc c'est une vente vraiment formidable. Dans l'inconscient collectif, il y a le T-Rex et le Triceratops. Donc il est le plus connu après le T-Rex, le plus sympathique. Et il avait un très très grand succès. On avait l'intuition que le prix serait supérieur, mais là il est très supérieur. Donc on est vraiment extrêmement satisfait et très fier.
Voilà, maître Alexandre Gicello, le commissaire-priseur de la vente. Et le squelette va désormais repartir aux États-Unis, là où il a été découvert d'ailleurs, puisque c'est un collectionneur américain qui s'est offert ce beau bébé de 8 mètres de long tout de même.
Ah oui,
ça prend de la place dans le salon.
Ouais.
Exactement, c'est ça.
C'était le journal de Roman Hockey, merci Roman.
Il est 6h06 et on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et des clubs français qui brillent en Ligue Europa.
Oui, mention spéciale pour Lyon, vainqueur 4-3 hier du Sparta Prague. Les Lyonnais continuent leur sans faute. 3 matchs, 3 victoires et déjà un pied en 8e de finale. Résultat positif aussi pour Monaco et Marseille. Les Monégasques ont battu le PSV Eindhoven 2-1, tandis que les Marseillais ramènent un joli match nul de Rome, 0-0 contre la Lazio.
Ce soir, c'est le retour de la Ligue 1.
Oui, avec le match de la peur pour Saint-Etienne, un dernier de Ligue 1 est toujours incapable de gagner le moindre match depuis le début de la saison. Les Verts reçoivent Angers, surprenant 5e. Les supporters sont en colère et le coach Claude Puel se sait en danger, mais il dédramatise, écoutez.
Pas l'habitude de parler de moi, de me mettre en avant et j'essaie de tout donner avec mon staff pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles. Il y a un environnement qui est particulier autour de nous, mais pour moi il n'y a pas de pression, il n'y a pas de problème.
Claude Puel au micro Europe 1 d'Anthony Perel. Saint-Etienne-Angers, c'est à 21h et c'est à suivre dans Europe 1 Sport. A noter aussi du foot féminin ce soir. Les Bleus reçoivent l'Estonie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Coup d'envoi à 21h10. Enfin, une initiative de la Ligue qui devrait faire jaser. La LFP envisage de délocaliser le match Monaco-Lyon en Chine au mois de février. Les deux clubs sont d'accord. Reste à obtenir le feu vert de la FIFA.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Du cyclisme sur piste avec les championnats du monde à Roubaix. Premier titre hier pour les Bleus. Il est pour le jeune Donovan Grandin sur le scratch. Les tricolores qui empochent également l'argent en poursuite par équipe. Deux défaites dans les gymnases. Le PSG Handball tombe à Barcelone en Ligue des Champions. Et l'ASVEL passe à deux doigts de l'exploit contre Milan en Euroleague. Défaite d'un tout petit point. Enfin, c'est déjà le grand retour des sports d'hiver avant les skieurs alpins demain à Solden. Les spécialistes du freestyle sont les premiers à reprendre leur saison aujourd'hui à Chure, en Suisse. La championne du monde Tess Ledeux sera là, pleine d'ambition pour cette saison olympique. Axel May l'a rencontrée pour Europe 1.
J'ai 19 ans, j'ai grandi à La Plagne. Je fais du ski freestyle. J'ai choisi cette discipline parce que je pense que c'est une partie de moi. Je vis pour cette discipline et pour le ski en général. J'aime la vie, voilà. Et j'essaie de profiter de chaque instant.
Sacré enthousiasme donc, hein. On la suivra jusqu'au jeu en février à Pékin.
Merci beaucoup Martin Lange.
Restez avec nous, on va parler dans un instant d'un réseau social dans la tourmente. Facebook obligé de se réinventer, voire de se renommer. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Il est 6h11, bon début de matinée sur Europe 1. On en vient à votre interview, Julien, et vous recevez ce matin l'un des meilleurs spécialistes du numérique.
Bonjour Jérôme Colombin.
Bonjour.
Scandale à répétition, accusé de nuire à la démocratie quand ce n'est pas à la santé de ses utilisateurs. Facebook traverse la pire crise depuis sa création, à tel point que le groupe californien pourrait changer de nom dès la semaine prochaine. C'est en tout cas ce que croit savoir The Verge, un site américain généralement bien informé. L'image de marque de Facebook est à ce point dégradée qu'il lui est indispensable aujourd'hui de se renommer ?
Alors en réalité, je ne sais pas si c'est la seule raison, mais il est certain que l'image de marque de Facebook est extrêmement dégradée. On peut dire que ça a commencé avec l'affaire Cambridge Analytica en 2018. Hein. Vous souvenez cette histoire d'exploitation des données personnelles, probablement en partie exploitée ensuite à des fins politiques qui ont, dit-on, pu contribuer à l'élection de Donald Trump, qui ont pu contribuer aussi au Brexit. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et puis, la propagation des messages de haine, la désinformation à travers les fake news, les infox, l'addiction aux réseaux sociaux, etc. Donc oui, ça va quand même très mal pour Facebook, même si l'audience, il faut le rappeler, ne cesse d'augmenter. Mais les accusations sont très nombreuses. Malgré tout, encore une fois, je pense que ce possible changement de nom correspond aussi à un changement en profondeur. Il y a vraiment derrière une volonté d'élargir l'activité, hein, très clairement.
Est-ce que ce changement de nom ne serait pas également une manière de donner des gages au Congrès américain où on entend de plus en plus cette idée d'un éventuel démantèlement de Facebook ?
Pourquoi pas ? Ça s'est déjà produit dans l'histoire des États-Unis avec les géants des télécoms. Mais en même temps, ce sont les joyaux de la couronne, hein, les GAFAM. Et d'un point de vue politique, les États-Unis n'ont pas forcément intérêt à affaiblir ces géants face à la rivalité chinoise.
Sauf que depuis quelques semaines, il y a ces fameux Facebook Files, ces documents internes révélés par une ancienne employée où l'on apprend notamment que Facebook est au courant que sa filiale Instagram peut être nocive à la santé mentale des adolescentes. Et il y a d'autres révélations à venir, paraît-il.
Je crois que le vrai problème de Facebook aujourd'hui, c'est sa taille. C'est que c'est devenu une entreprise très certainement très difficile à gouverner, qui en plus est sur des terrains complètement nouveaux, qui touchent à nos vies privées, à nos libertés, qui ont des conséquences sur le fonctionnement des démocraties. Et ça, c'est quand même complètement nouveau. Et pour nous, je dis nous, le public, les utilisateurs, et pour eux également. Et il y a des intérêts qui s'opposent en interne, il y a des arbitrages à faire. Ils ne font sans doute certainement pas toujours les bons arbitrages. Mais je pense que tout n'est pas tout blanc ou tout noir pour autant.
Alors pour tenter d'éteindre l'incendie, Facebook préfère communiquer sur ses projets d'avenir. Le réseau social a annoncé en début de semaine vouloir recruter 10 000 personnes en Europe pour travailler à l'élaboration du métaverse. C'est quoi exactement ?
Ce métaverse, alors oui, ça c'est la dernière lubie de Mark Zuckerberg, qu'il l'a présenté cet été en fait. Alors il n'est pas le seul à penser à ça, hein, dans la Silicon Valley. Il y a beaucoup de spécialistes du numérique qui y pensent. C'est un concept de monde parallèle en réalité virtuelle en fait. L'idée elle est ancienne parce qu'elle vient d'un livre de science-fiction des années 90. Le terme même vient d'un livre de science-fiction. Et puis on se rappelle qu'il y a déjà eu des prémices, hein. Il y a eu des choses qui s'appelaient Second Life. Il y a même eu il y avait une expérimentation française dans les années 90 qui s'appelait Deuxième Monde. Voilà, c'est toujours cette volonté de dupliquer dans le numérique le monde réel. Et là, ce serait avec des lunettes de réalité virtuelle, des lunettes beaucoup plus légères. Et ce serait à la fois pour des interactions sociale, donc on va dire, qui relève de la conversation privée, du divertissement, etc., mais aussi dans le domaine professionnel. Et ils ont déjà fait des choses intéressantes dans ce domaine. Ils ont lancé récemment un truc qui s'appelle Workrooms, qui est un système de réunion virtuelle en réalité virtuelle. Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer. C'est assez fantastique. Et donc, ils ont décidé, oui, d'aller complètement là-dedans. Il paraît que c'est la dernière, enfin que c'est une passion ancienne et c'est une volonté ancienne en réalité de Mark Zuckerberg de développer tout ça.
Mais ce métaverse pose aussi des questions éthiques parce qu'il y a un risque quand même que la frontière entre la vie réelle et la vie virtuelle disparaisse, en tout cas pour certains internautes.
Oui, mais vous savez, aujourd'hui, tout ce qui touche au numérique pose des questions éthiques. On le voit bien. C'est une banalité de dire qu'on est dans une transformation de société globale, profonde. Et donc, oui, ça va poser de nouveaux problèmes de société. Alors, ils annoncent qu'ils vont investir, je crois, 50 millions de dollars, justement, pour réfléchir à ces questions éthiques. Bon, c'est pas pour ça que ça empêchera qu'il y ait des dérives comme il y en a avec le réseau social actuel. Mais je pense que ce n'est pas non plus une raison pour ne pas essayer de développer ce genre de choses, parce qu'il y a sans doute des pistes assez séduisantes. Hein.
Merci beaucoup Jérôme Colombin d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque samedi à travers votre podcast intitulé Monde numérique. Très bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Il est 6h16, vous restez avec nous, La Partition, avec Jeanne et Marcel Planche, deux personnages incontournables de la vie de Georges Brassens. À tout de suite.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Bon réveil, il est 6h18, l'actualité résumée en moins d'une minute avec Alban Le Prince.
Le gouvernement a tranché et a opté pour ce qu'il appelle une indemnité inflation pour compenser la hausse des prix du carburant. Un virement de 100 euros qui arrivera directement sur le compte bancaire des 38 millions de personnes qui touchent moins de 2000 euros net mensuels. Deux ans après, Jean Castex relance le train des primeurs. Aujourd'hui, celui qui transporte les fruits et légumes méditerranéens de Perpignan à Rungis. L'inquiétude, puis le soulagement des sujets de la reine d'Angleterre. Elisabeth II a été hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle est rentrée à Windsor hier midi.
On termine avec votre partition, Omblin. Nous célébrons aujourd'hui le centenaire de la naissance de Georges Brassens et à cette occasion, vous nous ramenez en mars 1944 quand, enrôlé dans le service du travail obligatoire, le fameux STO, il déserte et reste caché à Paris.
Georges Brassens, Julien, avait été envoyé un an plus tôt à Basdorf, à une trentaine de kilomètres au nord de Berlin, pour travailler sur des moteurs d'avion. Et donc, un an après son arrivée en Allemagne, à la faveur d'une permission, il décide de ne pas y retourner. Commence alors une vie enchantée au numéro 9 de l'impasse Florimond, dans le 14e arrondissement de la capitale.
Chez Jeanne, la Jeanne. Son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu. S'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche.
Dans cette toute petite rue, qui part d'ailleurs de l'imposante rue d'Alésia, pour ceux qui connaissent, vit Jeanne Le Bonniec.
Le Bonniec, ouais, une amie de la tante de Georges Brassens. Elle lui envoyait d'ailleurs régulièrement des colis à Basdorf. Jeanne est lingère et couturière, une bretonne, un peu bourrue, mais une bonne samaritaine qui, en plus de recueillir le petit Georges, sauve les chats et les oiseaux blessés du quartier.
Jeanne a 30 ans de plus que lui. Elle est mariée à l'Auvergne. Marcel Planche, et avec Georges Brassens, la relation est affectueuse.
Oui, il y a un petit peu d'amour là-dessous, en plus d'une profonde admiration. Ce curieux ménage vit avec pas grand-chose, sans eau chaude ni commodité. Les toilettes sont dans la cour et font office de salle de bain. Une maisonnette avec un mur surplombé d'un arbre, cet arbre qu'il chantera 12 ans plus tard.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Chez Jeanne, on survit grâce à l'argent envoyé de Seth par les parents de Georges Brassens.
Il aimera raconter plus tard qu'on coupait les pommes de terre en trois, mais Jeanne ne lui demande jamais rien et l'atmosphère est chaleureuse. Malgré le confort matériel que lui apportera le succès, Georges Brassens restera impasse Florimond jusqu'en 1966.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid.
toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil.
L'Auvergnat ou l'hommage de Georges Brassens à Jeanne et Marcel Planche. Nous célébrons aujourd'hui le centenaire de sa naissance entre 16h et 18h historiquement vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël sera consacré à Georges Brassens. Et puis, écoutez le podcast Europe 1 exceptionnel. J'ai rendez-vous avec vous un portrait tout sonore en 5 épisodes réalisés à partir des archives d'Europe 1.
Merci Ombline. Il arrive dans ce studio Dimitri Pavlenko, fin prêt pour vous informer jusqu'à 9h. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, excellente matinée sur Europe 1 et c'est ici qu'on se quitte.
Et c'est ici qu'on se retrouvera lundi dès 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour.
Bon week-end.
Merci.
Profitez,